Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission de Radio Syllabe qui s'intéresse aux objets et aux faits de littérature. Ce soir, nous avons décidé de nous donner pour sujet un truc tout simple, pas prétentieux pour dessous, et dont on aura très vite de faire le tour. Nous allons explorer les altercations entre l'acte de créer et l'acte d'écrire. Les processus, les démarches, les étapes, tout ce petit rien, quoi. J'arrête d'être ironique avec toi, auditeur, auditrice. Tu mérites qu'on te dise les choses comme elles sont. Tu te dis peut-être qu'on abuse, qu'on n'était pas inspiré pour choisir le thème de ce soir. Après tout, tout ce dont on parle dans cette émission est vraisemblablement le fruit d'un acte créatif, le résultat d'un processus d'écriture varié, complexe et divers. Mais vois-tu, auditrice, auditeur, il y a des œuvres qui permettent d'aborder la chose un peu plus frontalement que d'autres. Et en plus de ça, il y a des occasions toutes particulières, qui permettent à des chroniqueuses telles que celles qui composent notre fabuleuse équipe de rencontrer des gens qui se retrouvent à participer à cette drôle d'aventure qu'est la création et l'acte d'écriture. Alors, quel meilleur moment que celui-là pour en parler ? Trêve d'introduction. Il est temps de profiter de la première chronique de cette émission. Et pour ce, je laisse la parole à Sandrine.
Patti Smith, Dévotion. Pourquoi ce livre ? Parce que l'autrice, Patti Smith, nous livre son envie d'écrire. C'est pour elle une obsession créatrice. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on trouve une nouvelle, et autour de cela est brodée une courte fiction. Dévotion est en fait une nouvelle et des confessions, des impressions, comme il peut en être question dans un journal intime. Alors, tout le génie, évidemment, réside dans cette force d'écriture que possède Patti Smith, et c'est très très attachant, parce qu'on partage... On partage ses voyages à Paris, ses promenades dans les cimetières, les jardins, les cafés, les rues. Et ça nous remplit d'un vertige. Ça nous remplit d'un quotidien et on s'en sent très proche. Alors, Patti Smith, tout le monde la connaît, cette chanteuse extraordinaire, engagée, cette sublime poétesse new-yorkaise, 72 ans, et qui nous livre ici sa première œuvre de fiction. Elle nous dévoile aussi quelques conseils pour bien écrire. Et ça peut être intéressant pour toute personne qui écoute cette émission en se disant « Tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?» L'autrice nous explique les mystères du processus créatif. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, elle nous confie, mais très librement et très sincèrement, tout ce processus. Comment fait-elle ? Comment parvient-elle à transcrire ses émotions ? Alors en fait, eh bien, elle se laisse tout simplement aller dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans quelque chose d'une simplicité, d'un dépouillement total. Elle est tout simplement du verbe être. Ses influences sont multiples, mais elles ne sont pas décisionnelles. Ce qui compte d'abord, c'est d'être quelque part. Alors ça peut être un lieu, ça peut être une lecture. Alors il y a tout d'abord la biographie de Simone Veil, la femme philosophe. Il y a les textes de Patrick Modiano, il y a ceux d'Albert Camus. Et puis il y a bien sûr les mots de Virginia Woolf. Si vous ne dites pas la vérité sur vous-même, vous ne pourrez pas la dire sur les autres. Alors il y a aussi tous ces lieux, les cimetières, les rues, tout ce qui est chargé du vécu d'autres personnes, ce qui est emprunt de tous ces personnages qu'elle a côtoyés ou non, mais qui l'inspirent. Elle s'imagine, elle se crée des choses, des situations où elle y repense, et tout ça nourrit son imaginaire. Et puis bien évidemment, aucun académisme. Se laisser porter à une inspiration totale, que ça soit donc devant son écran de télé, avec les manuscrits, avec tout ce qui peut lui donner une richesse émotionnelle, une vérité d'écriture. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner des conseils et elle-même n'en donne pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Cette alchimie qui survient parce qu'au plus profond d'elle-même, elle laisse ressurgir tout ça, tous ces personnages. Et oui, ce processus d'écriture, eh bien, voilà, c'est ça, c'est une réflexion. Et de cette réflexion, il y a une naissance, il y a une résurgence. Alors, quel conseil donne-t-elle pour bien écrire? Je viens de le dire, il n'y en a pas. C'est juste se questionner sur ce que ça veut dire écrire et comment ensuite on laisse s'exprimer ce qu'il y a en nous. Et puis, on pourrait extrapoler simplement et dire que, en fait, existe-t-il vraiment une seule et unique manière de bien écrire? Patti Smith, Dévotion. L'inspiration est la quantité imprévue, la muse qui vous assaille au cœur de la nuit. La flèche vole et on n'est pas conscient d'avoir été touché. On ignore qu'une multitude de catalyseurs étrangers les uns aux autres nous ont clandestinement rejoints pour former un système à part. Nous inoculant les vibrations d'un mal incurable, une imagination brûlante, à la fois impie et divin. Que faire des impulsions qui en résultent, de ces terminaisons nerveuses qui clignotent comme une carte illuminée de constellations voleuses? Les étoiles palpitent, la muse cherche à être vivifiée. Mais l'esprit est aussi la muse. Il cherche à être plus malin que ses glorieux opposants, à détourner de telles sources d'inspiration. Une rivière de cristal soudain asséchée, une chose de beauté sans joie souillée. Pourquoi l'esprit créatif se retourne-t-il contre lui-même? Pourquoi le créateur tord-il tout drame? Le stylo est levé, guidé par la muse brisée. Sans protester, il inscrit sur la page « L'harmonie passe ». Inaperçu, sans protester, il poursuit. Abel est dépeint comme un simple berger oublié. Elle raconte ce qui la pousse à écrire. Et ce qui est bien, ce qui est très chouette, c'est toute la richesse de cette iconographie, des photos en noir et blanc, des textes manuscrits. Ouais, c'est très très proche d'un journal intime. Évidemment, ce livre, il éblouit, il trouble, parce qu'il est d'une puissance émancipatrice. Réinventer sa vie, on en rêve. Et à travers l'écriture de cette femme, eh bien, l'imaginaire s'enivre d'audace. Un ailleurs viscéralement apaisant. Dans l'album rock Dream of Life, Patti Smith criait avec élégance « People have the power ». Et ces mots hurlaient à nos oreilles. Ça hurlait cette urgence de faire de nos idéaux des envies de vivre. Le rock incarnait la liberté. Ce livre incarne l'idée de créer. C'est plein d'adrénaline. Et ça nous interroge sur notre quotidien. Elle nous propose un itinéraire débarrassé des carcans pour être soi et expérimenter plusieurs vies. Cette belle figure essentielle du rock a composé de nombreux albums. Elle s'est dévoilée sur des scènes prolifiques et sublimes. Et d'ailleurs, deux livres autobiographiques racontent son histoire de manière très poétique et contemplative. Just the Kids, en 2000, et Mr. Train, en 2015. Dans Dévotion, Patti Smith explore ici la thématique de l'écriture, tellement essentielle dans sa vie. Oui, la force de la lecture l'a construite, édifiée. Pour elle, eh bien, les livres, ce sont des passerelles, des liens pour transmettre des émotions, des souvenirs, des réflexions. Et le processus de création naît de ces lectures et de l'amour de tous ces mots, de toutes ces histoires rêvées ou vécues, de tous ces personnages qu'elle a rencontrés, de toute sa curiosité insatiable. Ses inspirations littéraires sont révélées. Et tous ces fragments de vie, ouais, comme le ferait un proche, vous savez, lorsqu'on partage un moment d'intimité autour d'un café. C'est plein de fragilité, c'est plein de beauté, c'est plein de sincérité. Des mots doux comme des frôlements amoureux, comme les regards de la personne aimée qui pose ses yeux sur vous. Ce livre m'a beaucoup perturbée parce qu'il est révélation. C'est une lecture prodigieuse, incandescente. Et l'épilogue, pourquoi écrivons-nous ? Eh bien, parce que nous ne pouvons pas simplement vivre. Voilà la dimension confidentielle et singulière de ce livre. L'écriture, le besoin d'écrire, obsède Patti Smith. Alors j'invite chaque personne à le lire et j'invite chaque personne à écrire. Ce qui lui vient par la tête, ce qui lui traverse son cœur, peu importe, mais que ça sorte. L'écriture est un cri. Et en cette période de confinement, eh bien, offrons-nous cette liberté. Écrions. J'espère vraiment que cette chronique, ma première, vous aura donné l'inspiration. En attendant, moi je vous embrasse. À bientôt. The grace to shower, it's decreed.
vous écoutez People Have the Power de Patti Smith.
Écrire, c'est toute une aventure et éditer un livre, c'en est une encore plus grande. Pourtant, Joséphine Duplat-Biquet et Sophie Mourgeon l'ont fait, toutes les deux à leur échelle, en éditant le recueil Sorcières dont elles nous ont parlé lors d'une interview, dans laquelle elles ont abordé leur rapport à l'écriture et la manière dont elles ont monté ce projet.
Donc j'ai eu la chance de discuter avec vous un petit peu par rapport à votre recueil, qui a été édité en septembre 2020. Et donc ce recueil nous offre différents aspects de ces êtres un peu mythiques dans un univers très intime, racontés sous la forme de nouvelles, de poèmes ou encore d'illustrations fantasmatiques. Donc, je ne vais pas en dévoiler davantage et je vais vous laisser, si vous voulez bien, Joséphine ou Sophie, présenter un petit peu votre projet et puis vous présenter vous aussi.
Moi, en fait, sur le bouquin, je suis l'éditrice, entre autres. Ce projet, j'ai porté à bras le corps un certain nombre de mois. Au début, c'était un projet scolaire. J'ai fini mon master édition et on devait organiser une collection de bouquins et en sortir un pour de vrai. Ça m'est venu vraiment sur le moment, je me suis dit « Oh, bah, allez, j'ai envie de faire un truc de nouvelle érotique ». Juste parce que c'est drôle, juste parce que personne va oser le faire. Et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça avec des thèmes qui me plaisent, donc du fantastique. Et est née l'idée, bah, assez naturellement, de la sorcière, une espèce de réservoir à fantasmes infinis, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et après, le plus dur, ça a été de trouver les auteurs et autrices. Bon, Sophie, j'ai très vite pensé à Sophie.
Ouais, c'était assez évident, ouais. Je pense, pour le coup.
Et voilà, donc c'est vraiment comme ça que c'est parti. Et puis, voyant que ça emballait pas mal de monde, le projet a pris de l'ampleur, on va dire, jusqu'à sortir là et être vraiment vendable.
Bah, du coup, moi, donc, je fais les chroniques érotiques aussi à la radio. C'est pour ça, d'où l'évidence un peu. Donc, vu que Joséphine voulait faire un recueil beaucoup porté sur l'érotisme, nécessairement, elle m'a contactée. Moi, c'est la première fois que j'écris véritablement quelque chose pour quelqu'un. J'écrivais de base, mais j'avoue qu'il a fallu peut-être un peu me motiver un minimum parce que je n'étais pas forcément assurée. Et Joséphine a fait un taf assez monumental là-dessus. Je tiens à dire que c'est une très chouette éditrice parce qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, notamment dans la correction et dans la forme globale. C'était un super exercice en vérité. Elle nous a laissé aussi beaucoup de liberté, ce qui était vraiment très appréciable pour le coup, en dehors de la contrainte donc, du thème érotico-fantastique et donc de cette figure de la sorcière à côté de ça en termes de format. Et on avait très peu de contraintes finalement. Elle nous a vraiment laissé amener le thème dans la direction qui nous inspirait finalement le plus. Et je pense, après avoir lu du coup donc aussi les différentes productions, que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tous des visions très très différentes aussi de cette figure-là en particulier et des visions qui sont aussi entachées de différents jugements, parfois plus positifs, parfois plus négatifs. Avec la multiplicité des formats dans le recueil, c'est qu'il y a aussi pas mal de réflexions sur la figure de la sorcière et pas seulement en tant que personnage, je pense. Avec les différentes interprétations, on se rend compte à quel point aussi c'est... Bah, t'as utilisé le terme de réservoir à fantasmes, je trouve ça très pertinent. Pour moi, l'idée, c'était aussi beaucoup qu'on est rarement sorcière soi-même, c'est beaucoup qu'on nous affuble de ça, de cet adjectif-là aussi, ça passe beaucoup par des perceptions. Et ça faisait du bien aussi d'être soutenu aussi un peu comme ça, avec vraiment une approche de quelqu'un qui connaît le milieu, qui sait ce que ça implique aussi d'écrire pour des gens et pas seulement pour soi, quoi.
Ouais, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui est quand même très, très exhaustive. Hein. En parlant de l'inspiration, justement, est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont inspiré un petit peu sur cette image de la sorcière? Est-ce qu'il y a des univers qui vous inspiraient plus que d'autres pour choisir cette image de la sorcière? Parce qu'il en existe quand même beaucoup.
Moi, la sorcière, c'est un thème, comment dire? Moi, je suis une femme, j'imagine, donc déjà, il y a forcément un lien quelque part. La sorcière est un peu un des avatars de la féminité, surtout à l'heure actuelle où il y a vraiment un regain aussi d'intérêt pour cette figure-là, dans le cadre notamment de la réappropriation. Sorcière a été longtemps un stigma qui était apposé, notamment sur les femmes, mais aussi sur des hommes, chose que j'ai découverte pendant mes recherches un peu. Et donc, ouais, ça a toujours été une figure qui m'a beaucoup fascinée, notamment pour le côté fantasmatique. En termes d'inspiration, moi j'ai une nouvelle particulièrement qui m'a inspirée. Elle ne traite pas vraiment de sorcière, mais c'est une nouvelle de Bukowski qui s'appelle « L'homme qui rétrécit ». Ça doit être dans les nouveaux contes de la folie ordinaire, le volume 1 ou le 2e. C'est une petite nouvelle, narrée du point de vue du narrateur. Ce narrateur est en relation avec une femme. Ils vivent ensemble et en fait, elle a vraiment ce côté succube dans le sens où la nouvelle vire dans le fantastique à un moment parce qu'on se rend compte que l'homme rétrécit. Elle est en train littéralement de pomper toute son énergie vitale et donc il rétrécit et il finit par disparaître. C'est toute une nouvelle très particulière. Et cette idée me fait fasciné un petit peu. J'aimais beaucoup aussi le principe. Et ce qui m'intéressait aussi, donc là, on avait vraiment beaucoup le point de vue de l'homme et aussi cette façon que les relations peuvent avoir d'être très énergivore, par exemple, toxique même. C'est un peu un trope dans les relations hommes-femmes. Côté femme succube, la sorcière qui aspire la pulsion de vie. Et ça m'intéressait un peu de complexifier la chose et de de troubler un peu aussi les points de vue par rapport à ça. Et donc, ma nouvelle, j'ai beaucoup écrit un peu comme une réécriture de ça, je pense. Puis bah, avec mes choses personnelles à moi. Et après, bon, ça a été des sorcières dans ma tête, j'en ai beaucoup. Mais voilà, ça a été beaucoup ça, mes influences.
Ce qui est intéressant aussi avec la nouvelle de Sophie, c'est qu'effectivement, elle brasse finalement très très large au niveau des thématiques de la relation et de ce que l'autre garde de soi, puisqu'on peut le voir au sens tout à fait propre avec ce côté très fantastique. Mais il y a un petit côté aussi, ce qu'on garde de l'autre, on ingère toujours une partie de l'autre. Et je pense qu'il y a plein de trucs que toi-même, au fur et à mesure, tu vas regarder, tu vas dire « Ah mais oui, ça me fait penser en fait à ça quand tu regardes avec un regard extérieur ». Tu te rends compte que finalement, à force de mettre de l'humain et des thématiques qui te sont chères, il y a plein de choses que tu vas te rendre compte que tu as mis dedans.
Je voulais raconter quelque chose un peu, mais pas forcément littéralement. Mmh. Et c'est beaucoup aussi un peu de l'ordre de l'impression. Tu vois, il y a un petit côté, j'imagine, cauchemardesque aussi dans la façon dont évoluent les choses.
Un peu masochiste aussi.
Complètement masochiste des deux côtés en plus, c'est ça qui est assez chouette. mais ça raconte pas mal de choses. Et en même temps, ouais, j'ai voulu aussi pas mal... laisser d'espace, je pense, au lecteur pour prendre cette histoire qui est bizarre, qui est faite pour être bizarre, en fait, qui est faite pour être un peu dérangeante, et voir aussi ce que ça lui fait, en fait, tout simplement, et à quoi ça renvoie chacun. Dans cette histoire-là, la scission entre hommes et femmes, pas forcément... les rôles pourraient être échangés très facilement, en fait.
Ouais, c'est vrai que cette nouvelle, par exemple, elle est assez paradoxale, parce que d'un côté, c'est très dérangeant, comme tu dis, c'est très froid, ça fait presque peur, un peu, le personnage de la sorcière que tu as utilisé, et en même temps, il y a tout ce côté un peu intime et presque bienveillant avec son rapport avec l'homme avec lequel elle passe un moment, en fait.
Je suis très contente que tu aies vu la bienveillance là-dedans aussi.
Enfin, c'est assez contrasté, en fait. On ne sait pas trop comment cerner le personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent dans ta nouvelle, en fait.
Mais j'ai complètement voulu couper l'accès un petit peu à l'intériorité des personnages, justement pour laisser toute la place à l'intériorité du lecteur, en fait. C'est des situations, en fait, véritablement plus que... Il y a de l'interaction entre les personnages, et après, il y a aussi cette chose dans laquelle ils se répondent pas forcément, en fait, leur conversation n'est pas très fluide, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui passent par du silence, ou en tout cas, on a l'impression qu'il y a une signification qui nous échappe un peu. Ça oblige le fait qu'on n'ait pas accès ni aux pensées de la femme rapidement, très vite fait, comme des flashs dans celle de l'homme. Et encore qu'à la fin, il y a quand même un peu une inversion de ça. On rentre plus dans sa tête à elle après, finalement, parce qu'il disparaît, hein, tout simplement aussi, c'est ça. Littéralement, ils font. C'est compliqué à écrire ça, par contre, c'était... Étant donné qu'il y a peu d'ancrage réaliste là-dedans et que j'avais quand même envie que ce soit visualisable. Avant, j'écrivais déjà des choses érotiques. J'ai beaucoup écrit dans ce sens-là, au niveau personnel. C'est une écriture que j'ai déjà beaucoup pratiquée, que je lis énormément aussi. C'est un champ littéraire qui est monumental. Énormément de choses là-dedans, très variées, très différentes, et en même temps, c'est très particulier.
On renvoie d'ailleurs au podcast qu'on avait fait en long, en large et en travers sur ce sujet.
Ce grand plateau qui était très intéressant. Mmh. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment beaucoup une écriture du corps aussi qui doit être assez instinctive. C'est la première fois que je passe autant de temps à relire, je pense, retravailler un de mes écrits, et c'était assez plaisant aussi de faire ça avec quelqu'un qui est capable d'apporter ce que moi je ne peux pas apporter, en fait, qui est je suis littéralement trop impliquée.
Comme là on est sur un recueil, donc il y a plusieurs personnes qui ont participé au recueil, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de la manière dont vous avez construit le recueil, surtout du coup au niveau de l'édition. On commence sur cette nouvelle qui est un petit peu on ne sait pas trop quoi en penser, on ne sait pas trop où se situer, les personnages on a du mal un peu à cerner la chose, puis à la fin la dernière nouvelle est beaucoup plus douce. On se retrouve avec des poèmes, des illustrations. Comment est-ce que vous avez un peu mis ça en forme, en fait ?
Ça a été une grosse réflexion sur quelle place à quel récit. Le choix de commencer avec celui de Sophie, c'est vrai que c'est pour rentrer directement. Souvent, les gens, la première nouvelle qu'ils vont lire, ça va être l'impression qui va les suivre sur le recueil. Je savais qu'avec Sophie, je partais quand même sur un bon niveau d'érotisme. Je n'allais pas faire semblant. Rien que le premier paragraphe, on est directement dedans. Et puis, il y avait cette saveur, effectivement, de la sorcière un peu étrange. On est un peu entre deux. Ça laissait beaucoup de portes ouvertes, en fait, sur la suite. Ensuite, ça fait nouvelle, poème, nouvelle, récit graphique, nouvelle, poème, nouvelle. Histoire que ça renouvelle un petit peu. C'était intéressant d'entrecouper les nouvelles, parce que beaucoup de nouvelles d'affilée, puis des poèmes ensemble... Il y avait peut-être un court-circuitage que ça pouvait créer.
Ça aurait pu faire une scission, genre comme une œuvre en deux parties, par exemple.
Ça laisse le temps aussi d'oublier la nouvelle d'avant, avant de commencer celle d'après, d'oublier les premiers poèmes et la façon de le de les écouter, etc. J'ai fini par mettre le récit graphique au milieu. Au début, je voulais pas le mettre au milieu parce que j'aime pas la symétrie. Voilà.
Moi, je vais te dire un truc. J'ai trouvé ça très, très chouette quand j'ai reçu le bouquin. Déjà, visuellement, quand tu prends l'objet même sans l'ouvrir, je trouve ça très chouette qu'il y ait cette espèce de
marquage noir au milieu.
La symétrie n'est pas du tout dérangeante. Et plus encore, il y a beaucoup de femmes nues. Il y a beaucoup d'entrejambes. Il y a beaucoup de ça dans ce recueil. Et ça me rappelait ça. Je trouve que l'objet est très doux et il a ce côté très féminin. C'est comme un cœur, tu vois. C'est comme un centre. Ouais.
J'ai mis la nouvelle de Gaëlle avant le récit graphique parce que c'était un peu un pied de nez, un espèce de contre-sens, je trouve, du reste du...
J'aime beaucoup la réintroduction aussi, beaucoup de l'humour dans cette thématique-là. C'est même un peu potache, etc. C'était très plaisant.
C'était un peu sur le grotesque, quoi, à la fin, ils sont montés sur cet énorme pénis et tout. Enfin, en fait, c'est vachement référencé. Ce sont des gravures du Moyen-Âge. C'était vraiment des figures qui servaient. Ça existe, ces gravures existent. Ailés avec des pattes et tout ça, ça existe. Donc je trouvais ça vraiment excellent. Et la dernière nouvelle que j'adore, l'histoire d'un jeune puceau avec un truc un peu médiéval, ça pouvait être tellement mauvais goût.
Ouais.
Et en fait, c'est surprenant de finesse et ça fait du bien. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être la seule nouvelle qui aussi s'adresse aux hommes. Et du coup, on sent qu'il a voulu retranscrire lui, en étant un homme, son amour aussi de ces femmes-là qui ne s'arrêtent pas aux codifications, qui ne s'arrêtent pas aux clichés. C'était assez proche de l'idée que moi j'en avais. C'était pas du tout la même influence de sorcière que Sophie. Puisque, du coup, j'ai fait des dessins aussi, j'ai fait de l'illustration dans le livre. Et j'étais plus sur la sorcière comme une femme sauvage. Tout ce côté aussi rituel, se retrouver la sororité.
C'est très onirique, ouais. J'apprécie énormément l'absence de mots pour le coup. Ça donne vraiment une force aux images.
Mais justement, comme ce que disait Sophie au tout début, c'est que donc, dans la dernière nouvelle, par exemple, la sorcière, elle est citée, mais dans le sens où on se dit cette femme, des gens la considèrent comme une sorcière. Mm-hmm. Mais c'est jamais tranché, justement, et c'est un peu toute la magie de ce livre, c'est que c'est plus, j'ai l'impression que c'est un peu la sorcière de manière symbolique, en fait. Parce que, surtout que c'est les femmes qui ont le pouvoir dans ce livre, totalement.
La sorcière, c'est ça, c'est la femme de pouvoir dans tous les sens du terme. Elle a le pouvoir magique, de pouvoir parce qu'elle a le savoir et la médecine, et de pouvoir parce qu'elle prend ce pouvoir et qu'elle ose diriger l'homme quelque part, tu vois. C'est-à-dire que c'est la femme qui va faire ce qu'il faut qu'elle fasse, quoi.
Il y a quelque chose aussi un peu de l'ordre du guide hein, dans la sorcière. Mm-hmm. C'est une œuvre qui est très contemporaine, très postmoderne, dans l'idée où je pense que quand tu nous as parlé de figure de la sorcière, on a tous très beaucoup entendu figure. Parce qu'on sait à l'heure actuelle que sortir, ce n'est pas une imagerie, ce n'est pas un univers, ce n'est pas une lecture. Je pense que c'est une des figures de la culture populaire qui a été le plus exploitée. En termes symboliques, même sociologiques, on va dire, pour moi, la sorcière, c'est aussi beaucoup un espèce de vide dans lequel on a beaucoup rejeté une peur des femmes.
C'est en même temps une peur et une espèce de fantasme à l'ancienne, et en même temps une revisitation nouvelle de cet être, avec tous les courants féministes en ce moment, évidemment, on pense direct à ça, mais c'est beaucoup aussi cette ambivalence que tout le monde la connaît et en même temps personne ne la connaît. Mettre ce qu'on veut, quoi.
Je pense que c'est un problème quand on traite un sujet comme celui de la sorcière, justement, qui est un tel pilier, enfin, il y a tellement de choses là-dedans, c'est que beaucoup de gens en ont déjà parlé. C'est très difficile de ne pas, je pense, sombrer dans le cliché assez facilement. Chaque unité dans le recueil est une œuvre particulière en elle-même. Il y a toujours une espèce de petit décalage parce que c'est aussi une espèce de volonté, je pense, de sortir de ce qui a déjà été dit.
Et voilà, le recueil, il est à la fois très ancien dans le sens où il reprend des figures qui sont vues depuis des siècles, en fait, et en même temps, il est très actuel.
La sorcière est quelque chose d'extrêmement, je veux dire sexy, mais pas au sens sexy, sexualisé, mais au sens vendeur, en fait, du terme.
Et donc l'idée, voilà, c'était d'avoir une nouvelle vision de la chose, quoi. Une vision qui ressemble plus à notre génération. C'était de dépoussiérer un peu aussi l'érotisme, c'était de dépoussiérer le fantastique, c'était de dépoussiérer le mélange de genres.
Tous ces mouvements de réappropriation, des mots, des termes, des figures aussi de toute la mythologie, et c'est important pour des je pense, de donner la parole à des personnes de notre génération, justement, pour se prononcer et se positionner, en fait, sur ces sujets-là qui sont des mythologies fondatrices, en fait, finalement, de notre époque.
La sorcière, aussi, je pense qu'elle a été facile à se réapproprier parce que cette histoire de sororité, c'était très important, quand même, de se trouver en tant que groupe et pas juste en tant que figure isolée, là où la démon ou la succube n'aurait pas vie par elle-même. La sorcière, il y a vraiment cette idée de sororité.
De communauté, en fait.
Dans la différence entre ma sorcière, par exemple, et celle de Sophie, c'est que je suis beaucoup imprégnée de la culture Wicca, avec les sabbats, enfin, vraiment ce qui est devenu ce qui était et ce qui est de nouveau maintenant comme en fait une espèce de, pas de religion, mais de vraiment des rites.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton espèce de récit imagé, c'est qu'il y avait vraiment cette dimension du paganisme. Et en fait, c'est une dimension de la sorcière qui est proche de la nature, en fait, qui pour moi est très importante aussi dans ce rapport à la féminité aussi, parce qu'il y a une proximité avec le corps, des sortes de lune aussi.
Le matériel, la chair, le vivant, la nature, c'est cette femme qui en fait est tout.
Pas coupée du monde, en fait, qui est dans le monde, mais profondément dans le monde, dans un aspect où justement, elle est un peu, pour moi, la sorcière, elle est un peu poreuse. C'est que pour moi, la sorcière, elle a une capacité à toucher et à ressentir. Particulière, peut-être pour ça qu'on l'a mis du côté des forces cosmiques ou un peu ténébreuses, c'est qu'elle a quelque chose aussi de cet ordre du physique, du concret et de la sensation. Et toi, t'as rapproché beaucoup avec la nature et je trouve ça très apaisant comme vision.
Dans l'image que vous donnez des sorcières, donc votre vision à vous et puis la vision un peu plus actuelle de la sorcière, ça remet la femme sorcière un peu sous une lumière plus bienveillante. C'est une image, en fait, c'est toujours très contrasté du début jusqu'à la fin. C'est ça qui fait du bien, en fait, à la lecture de l'ouvrage, quoi.
Je pense que ça vient aussi de notre propre bienveillance par rapport à ce terme-là aussi, tu vois. Comme je disais, moi, j'ai eu une histoire un peu compliquée avec ça. Et c'est intéressant aussi de pouvoir fixer un peu ça sur du papier et de pouvoir le partager avec d'autres et de voir aussi qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. Non, c'est une jolie chose, ouais.
Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Je repense à un poème qui parle donc, d'une femme qui est devenue homme, par exemple, de l'image de l'homme qui est un peu laissé de côté pendant toute la première partie du recueil, et puis à la fin, la dernière nouvelle qui se centre un peu plus du point de vue de l'homme, du coup. Donc je pense qu'on peut vraiment se retrouver un peu n'importe où dans le recueil, en fait.
Ça montre bien la pluralité, en fait, des images que peuvent donner la sorcière. Là, dans ce cas-là, c'est une jeune femme qui arrive à s'absoudre de son enveloppe de chair, comme je disais, c'est la chair, grâce à la sorcière qui change. Et elle est délivrée du corps qu'elle sentait, pas le sien.
Mais c'est des textes très mouvants de toute façon. Il y a beaucoup d'histoires de transformation, de métamorphose un peu. Je pense que la sorcière est un personnage d'action beaucoup, qui modifie les choses.
C'est plus d'un point de vue matériel et physique dans les nouvelles, mais avec toute cette dimension plus psychique en fait, que ça a, et le pouvoir qu'à la femme pour changer les choses, justement.
C'est encore une figure spirituelle, la sorcière. Et il y a peu de figures spirituelles à l'heure actuelle.
Il y avait peu de figures de femmes qui, justement, changeaient les choses.
Peut-être aussi pour ça qu'elle fait peur en soi.
Oui, d'ailleurs, elle était souvent « Ouh là là, attention, qu'est-ce que c'est que cette folle ?» Sinon, sur le processus créatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Alors, c'est vrai que souvent, on aide un auteur à développer son récit. Bon, outre le fait qu'il faille corriger les fautes, parce qu'on oublie tous des fautes, et je pense que si on le relit, on peut encore trouver des fautes dans le bouquin. En dehors de cette première approche, je pense que le plus important, et ce qu'on doit garder en tête, c'est d'abord se souvenir qu'on n'est pas l'écrivain, qu'on est censé les accompagner, mais on n'est pas censé prendre le pas sur ce qu'ils ont envie. S'il y a une phrase, la formulation, c'est ça dont l'auteur a envie, bah c'est ça la formulation. On peut juste suggérer, en fait. De toute façon, on ne peut rien imposer. C'est d'autant plus dur pour moi qui écris aussi et qui ai donc un style et des réflexes, des façons d'écrire déjà.
Ça, si je peux me permettre, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup ressenti, en tout cas ce que tu dis et cette vision-là du métier de l'édition dans la façon dont on a travaillé ensemble. En plus, tu connais l'écriture, donc tu sais un peu comment ça fonctionne. Après, je pense qu'on a tous des rapports très différents à l'écriture. Il y a des gens pour qui, je pense, c'est beaucoup plus simple. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la contrainte, du condensé, quoi. Enfin, c'est très, très particulier. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler honnêtement pour toi dans l'idée, tu vois, pour ton projet en tout cas, parce que j'aimais beaucoup la façon dont t'en parlais et l'approche que t'en avais. Plus de ça, enfin, tu m'as vraiment aidé là où justement moi j'étais trop dans mon texte, où je vivais trop mon texte, et là où t'as été vraiment bien, ça a été dans la liberté que tu m'as accordée. Je mets très longtemps avant d'écrire, puis quand j'écris c'est dingue, et puis après je suis là, je regarde le truc, enfin, j'ai l'impression d'avoir vomi, c'est super particulier. Et du coup après, genre, j'ai vraiment ce truc de j'y touche très peu, en fait, je touche très peu à ce que j'écris, et du coup revenir, j'avais très peur aussi de pas être capable de prendre les critiques et de pas être capable de remettre en question. C'était beaucoup plus simple parce que en fait j'avais grave confiance en Joséphine, et en plus vraiment, j'avais confiance en la mesure que tu mettais là-dedans, tu vois. Je faisais attention, justement, à ne pas aller à l'encontre de ma propre licence poétique, on va dire. Et ça a été beaucoup des conseils, en fait, finalement, de forme pure, mais qui étaient très intéressants et que moi, j'aurais pas pu avoir à la lecture seule, quoi.
De toute façon, la relation auteur-éditeur, il faut que ce soit d'abord une relation de confiance, parce que c'est très humain, en fait, comme travail. Le travail de l'éditeur, ça va être d'amener, de prendre un peu par la main en disant, bon, là, si tu veux, il y a une petite faiblesse sur ce paragraphe-là. Trouver le bon mot, la bonne façon, le bon tempo aussi, parce que c'est aussi du rythme, l'écriture. Particulièrement dans les poèmes, par exemple, Transcendance, on a beaucoup travaillé effectivement sur la ponctuation. Ça a l'air de rien comme ça, mais la ponctuation, c'est super important pour rythmer. Voilà, il y a plein de petites choses. C'est du rythme, c'est un vocabulaire. Par exemple, on a eu un travail sur le vocabulaire des fleurs, à un moment, sur les fleurs noires, sur ces veinages qui courent sous son épiderme. Et t'étais passé de fleurs à étoiles, à étoiles. Et du coup, c'est aussi, des fois, les images sont belles, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans le truc. Et le fait d'avoir un regard extérieur qui est beaucoup plus neutre, et qui va pointer du doigt les endroits où il y a des choses à revoir. Ça aide beaucoup à revenir. On n'est pas perdu tout seul dans son texte sur une mer avec son petit radeau et à revenir. Il y a quelqu'un qui te dit bon ben par là, ça serait bien. Ça c'est pas la peine, c'est bon, c'est nickel, ça marche. Par contre là, on comprend moins. Enfin, toute la subtilité, c'est d'être à la fois humain parce que tous les auteurs ont des caractères différents. Et là, avec Sophie, on avait déjà une relation de confiance. Donc ça va. Mais quand tu te retrouves avec des auteurs qui, des fois, en plus, sont plus âgés que moi, fait de devoir retravailler des textes de gens qui, apparemment, savent très bien écrire, qui sont plus âgés que moi et que je ne connais pas, que je n'ai jamais ni d'un ni d'un. Tu sais pas si tu vas les vexer. C'est une sorte de pincette aussi, parce que c'est vachement viscéral quand même d'écrire. Donc comment faire des remarques à quelqu'un par écrit en plus souvent, parce que quand tu peux pas voir les gens, c'est par mail, sans qu'ils prennent la mouche parce qu'ils auraient mal compris et qu'ils auraient peur. Enfin, c'est jongler avec tout plein de notions et c'est pas juste du travail de texte en fait, c'est beaucoup du travail humain.
En soi, l'écriture, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Donc...
En plus, moi, je voulais trop rajouter un truc en particulier que je pense qui est un peu important sur le fait que. Genre, tout à l'heure, t'as dit, ouais, c'est difficile de revenir sur un texte et tout. Genre, t'as l'impression que ton texte, il est bien comme ça. Moi, c'est grave l'inverse, tu vois. Je m'en suis rendu compte de ça, que la version que j'ai donnée, là, genre, en mode, mais ouais, enfin, j'ai grave encore envie de la modifier de ouf, mais en fait, il y a un moment, faut arrêter aussi, tu vois.
Oui, c'est ça. C'est une fois qu'il est sorti, bon, faut passer au suivant. Hein, ouais, sur le suivant, ça sera mieux. Mais c'est aussi l'expérience et c'est aussi le travail, hein, tout simplement.
Ça a été ouf de m'aider à accepter que j'avais terminé un truc. Et moi, je voulais juste rajouter aussi, ouais, que donc... et ouais, tu m'as pas mal aidé vraiment à faire ça.
Un petit mot de la fin, du coup ?
Un petit mot de la fin. J'espère juste que tout le monde appréciera la lecture de ce recueil pour les personnes qui auront l'occasion de l'avoir entre les mains. Juste te dire merci, encore une fois, parce que c'était un très beau projet, tu l'as très bien porté. Et le résultat est extrêmement chouette et au niveau personnel même, j'avoue, ça compte beaucoup. Donc merci pour ça.
Et ben, merci à toi et merci à Clara, du coup.
Merci à vous d'avoir répondu et d'avoir pris le temps de nous parler un peu de ce projet qui est quand même assez incroyable, hein, franchement.
Beaucoup de boulot et ça fait plaisir d'en parler un peu quand même.
Ouais, puis de pouvoir aussi parler un peu, désacraliser tout ce truc de la création. En vrai, écrire, c'est compliqué. Hein. Aider les gens à écrire, c'est compliqué aussi. Enfin voilà, il faut juste y mettre un coup.
Petit mot aussi pour s'il y en a qui nous écoutent et qui sont sur Rennes, les jeunes écrivains de Rennes, ou d'ailleurs. Bah, il y a Rennes 2, il y a le master métier du livre et ils produisent deux œuvres chacun par année en M2. Ou si vous êtes des jeunes auteurs et vous voulez tenter l'expérience. Et vous trouvez que vous avez fait un truc cool ou que vous voulez regarder ce qu'il y a comme appel à texte, eh ben, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ce travail-là. C'est des jeunes éditeurs aussi talentueux qu'on peut l'être, qui manquent juste un peu de pratique et d'expérience et qui seront ravis de travailler avec les jeunes auteurs qui eux-mêmes auraient besoin de ce genre de coup de pouce et de se mettre le pied à l'étrier, quoi.
La création de ce recueil ne semble donc pas avoir été de tout repos, mais ce qu'on peut en conclure, c'est que ce projet reste pour les participants une expérience incroyable malgré les difficultés auxquelles il a fallu faire face. Finalement, est-ce que ce ne serait pas là que se trouve toute la magie du processus de création ? En tout cas, de la magie, on en retrouve tout au long de ce recueil aux figures à la fois anciennes et pourtant très actuelles.
Merci à toutes trois, Clara, Joséphine et Sophie, pour cet entretien. Nous poursuivons notre émission avec une musique co-composée par Arthur Sinonini et Paraone. vous avez peut-être eu la chance de la découvrir dans Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma. Je vous laisse donc écouter les chœurs des femmes réunies dans la nuit et qui chantent autour du feu.
C'était la bande originale de Portrait d'une jeune fille en feu, un morceau composé par Arthur Simonini et Parawan.
La chronique BD.
La quoi ?
Moi, j'ai rien compris à cette phrase.
Allez.
La chronique, ta mère.
La quoi ?
La chronique BD.
Ok.
Je vais pas vous mentir, cette BD, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout. C'est cette fille qui me l'avait prêtée, en veille du confinement, première édition. Celle qu'on espérait être l'unique, mais bon. On s'est échangé quelques livres. En vrai, on s'est échangé quelques BD. C'est des livres, je sais, mais bref. On aime bien parler BD, je crois. Et parmi ces BD à elle, il y avait celle-là. L'apprenti de Lucas Mété. J'avais dévoré quasi toutes les autres, mais celle-là, elle me tombait des mains. J'aime pas les BD avec plein de textes écrits en tout petit, dans des cases bien délimitées et encadrées en haut, en bas, bref, à côté des dessins. Des BD bavardes, qui monologuent avec entêtement et lenteur. Cependant, je crois que j'étais un peu gênée de rester sur cet échec. Je veux dire, vis-à-vis d'elle, de la fille. Elle avait lu tous mes livres, elle. Alors, j'ai gardé encore un peu cette BD. Un peu longtemps. Bon bah, en fait, je l'ai encore, quoi, et j'ai pas trop envie de la garder plus de deux confinements, même si le deuxième n'en est pas vraiment un. Alors, j'y suis retournée. Et j'ai forcé. Je peux pas dire que j'ai aimé. J'ai trop lutté pour cette lecture. Je peux pas vous faire croire que c'était le coup de cœur de l'année. Mais c'était pas inintéressant, en fait. Alors on va en parler, de cette BD compliquée. Après tout, on n'écrit pas que pour plaire.
Je voulais passionnément que notre histoire soit réussie. Et il me semblait qu'une longue durée en serrait le gage, quel que soit par ailleurs le degré d'abstraction de la chose. Elle eut plusieurs histoires sentimentales, dont elle me disait parfois quelques mots, comme par mégarde. Ça ne me touchait pas. J'étais heureux de l'attention particulière qu'elle me portait et que j'aiguillonnais de temps à autre en l'informant de l'avancée de mes dispositions. Elle en était gênée ou flattée tour à tour, rarement agacée. Je Je passais le plus gros de mes journées dans un mauvais studio, choisi à la va-vite, pour tranquilliser ma mère, et que je n'ai jamais eu le courage de quitter. Je pensais que je n'en aurais pas les moyens. Il me semble que je n'arrivais à travailler, péniblement, qu'une ou deux petites heures. Je dormais beaucoup, pleurais énormément. Ça devint un petit rituel. Je n'avais pas à me forcer beaucoup pour que ça vienne. Chaleur et douceur apaisante, comme on sait. Même sur commande. Souvent le soir, parfois dès le lever, ce qui m'inquiétait tout de même à l'occasion. Horrible dessin. Sont-ils ressemblants ? J'étais tout à fait mon spectateur, me prenait en pitié en me réconfortant, en me caressant les cheveux. Je ne sais plus de qui je prenais le rôle, si j'en prenais un. Enfin, j'avais de la compassion et de la pitié pour moi-même, et j'en jouissais autant que possible. Je crois, parfois assez bien. Tout de même, ça n'allait pas.
Publié en 2010 chez les éditions Ego Comics, qui ont rendu les armes d'ailleurs en 2016 après 20 ans de bande dessinée alternative et indépendante, L'apprenti de Lucamete est une BD au format appréciable d'un peu plus de 120 pages en 21 cm par 15. Une première couverture monochrome aux teintes bleutées, où se côtoient deux profils. Celui d'une femme au regard perçant, surplombant le profil d'un homme dont la chevelure projette une ombre habile sur un visage indescriptible. Un face-à-face décalé, comme une rencontre manquée. Un contre-champ qui annonce l'un des non-narratifs principaux. Au dos, une galoche dans cette même teinte chromatique mélancolique, où la richesse des détails de ses bouches, lèvres et langues porte toute la sensualité de ces deux corps l'un contre l'autre, que l'on devine d'ailleurs être ceux d'un homme et d'une femme. Ou peut-être que je me trompe de déterminant et que l'indéfini n'a pas sa place ici. Au milieu de tout ce bleu, tranche le vert olive, qui réunit les couvertures et dévoile le titre. L'apprenti. Car en plus de cette histoire de lui qui court après elle, ou pour dire carrément les choses, en plus de cette relation entre notre auteur employant le jeu autobiographique et cette Mélanie qui a apparemment déjà fait l'objet d'une première obsession, une première bande dessinée, en plus de cela donc, en plus, il y a cet apprentissage du métier d'éditeur auprès d'un mentor, que l'éditeur du livre qualifiera de charismatique. Pour ma part, je vous invite à vous faire votre opinion propre. Et si vous voulez la mienne, charismatique est dans le top 10 des termes que je n'utiliserai pas. Pour le dire un peu vite et maladroitement, on pourrait avoir là un ex-étudiant des Beaux-Arts qui flirte avec le récit nombriliste de son quotidien, entre ateliers d'édition indépendants, éveil amoureux et sexuel, quête d'artistique et d'absolu, découverte de soi, j'en passe et des meilleurs. Bref, pas de quoi bander bien dur que je me disais, en allant à l'encontre du monologue entêtant et détaché qui s'étirait, inlassablement, au fil des pages. Mais vous saviez ce qu'il y avait ? Sous la case du texte sagement délimitée en une longue bande, tel un chapeau posé dessus, des dessins, des portraits, des paysages, des scènes, fourmillant de traits. J'utilise fourmiller, pas tellement parce que ce seraient des dessins colonisés de traits, même si parfois il y en a beaucoup, pas tout le temps, mais souvent, mais pas toujours. Bref, Lucamete sait donner sa place au blanc et au vide. Je dis que ça fourmille parce que ses traits ont de la texture, et de la matière, de la consistance, de la densité. Lui, il préfère parler d'épuration.
Je me suis sentie incapable de continuer à mêler travail sur le réel et mise en scène. Par mise en scène, j'entends faire comme revivre au présent à un moment du passé. Tenter de faire croire que ce qui est représenté est en train d'arriver et user pour cela du système propre à la fiction. Ça me gêne. Je me dis qu'on n'extirpe pas quelque chose du réel pour aussitôt le polir, l'assujettir à un système, à des codes, à un cadre. Ce sur quoi on travaille est incertain, complexe. Il faut absolument rester face à cette complexité et refuser de la réduire. Il faut en révéler quelque chose qui, éventuellement, au final, peut-être très simple, mais on ne peut pas modeler a priori la matière première pour lui donner d'emblée les apparats d'un récit. Mon texte et mon dessin ont pris davantage leur aise. Je crois qu'ils ont pu chacun éclairer l'autre dans leur spécialité. Il me semble que je me suis appuyée sur le texte pour me débarrasser d'un certain fatras, pour éclaircir les choses ou tenter de révéler leur sens, et sur le dessin, pour en revenir à la sensation. La question qui en résulte est déjà un peu posée dans la dernière page de l'apprenti. Une fois qu'on a retiré à un travail toutes les problématiques dont on estime qu'il se nourrissait à tort, que reste-t-il ? On ne sait pas trop. Peut-être, dans certains cas, ne reste-t-il pas grand-chose. Et pourtant, il n'y a pas autre chose à faire qu'à continuer à se débarrasser de l'inutile, de ce qui gêne, gâche le regard. Si ce qui reste est en termes d'œuvre un presque rien ou un rien du tout, il faudrait malgré tout parvenir à l'accepter.
Voilà donc ce qu'il y a dans l'apprenti. Une démarche qui fait que j'ai pas totalement perdu mon temps à soupirer d'exaspération en parcourant les élucubrations de ce petit bonhomme. En vrai, je dis ça, mais c'est pas ce petit bonhomme-là en particulier qui m'embête. C'est plus de lire l'énième petit bonhomme à élucubrer qui m'agace. Vous savez, moi, pour ce qui est du jeune artiste qui fait l'analyse de sa vie tout en cherchant à capter l'essence même de sa quête esthétique entre deux anecdotes, ses histoires, deux cœurs, ou deux culs, ou les deux, bah en fait, je me suis déjà farci les confessions de Rousseau, quoi, donc je crois que j'ai eu ma dose pour le restant de ma vie. Je médis encore, pardon. Là, je suis censée vous dire ce qui fait que j'ai pas laissé tomber et que ça valait la peine. J'ai gardé ce livre ouvert parce qu'il y avait quelque chose de fascinant dans ses dessins, mis bout à bout, sans se voir parasité de paroles, bulles ou autres éléments artificiels. L'exigence que l'auteur-dessinateur met dans chacun de ses traits, dans la précision et la distance avec laquelle il retranscrit ses années passées, cette volonté de scruter, peut-être pas au plus près, mais sans doute au plus vrai, ça a quelque chose de fascinant. Il y a quelque chose de très cinématographique, comme un documentaire à la croisée d'une rêverie, qui dégage un sentiment très spécial. Vous voyez ce moment où vous êtes posé, non, plutôt affalé, vautré, comme dégueulé sur le canapé, lit ou haute matelasserie qui supporte votre corps, le carrelage ou le parquet pour les moins chanceux, peut-être même un champ de blé si vous avez l'âme poète ou le destin pécor. Ce moment où vous avez le regard perdu dans le vide, et vous vous prenez à regarder les insectes. Il y a cette mouche posée sur votre bras, ou peut-être un scarabée à la vitre de votre voiture. Peut-être même un gendarme qui va tomber du t-shirt de votre ami et se perdre dans son décolleté. C'est ce moment précis où vous êtes absorbé par ces ailes de chrysalide, que vous fixez le pelage sur les 6 pattes de la bestiole. Vous êtes là, à considérer cette toute petite chose, et le monde semble si vaste, si grand, et vous avez comme l'impression d'être atteint d'une lucidité absolue. Dans les yeux boule à facettes, au noir abyssal de la créature insignifiante, vous êtes face à vous-même. Et alors... Fiout ! Le vent, l'ami bouge, un oiseau arrive, et tout ça c'est parti, évanoui. Vous voyez de quoi je parle ? Bon ben, si vous voulez retrouver ça, mais avec des dessins un peu plus mieux que mes bafouilles, bah, l'apprenti de Lucas Mété, c'est peut-être pas mal. En tout cas, maintenant, je vais pouvoir lui rendre sa BD, à la fille du début. Peut-être qu'elle va m'en prêter d'autres, qui parlent de cette même chose, de ce truc indicible qui nous obsède tous et tous dans la vie comme dans la création. Et j'espère que cette fois, ce sera pas l'œuvre d'un petit mec.
Soulager ce sentiment qui te déchire. Sous la lune allumée, tu voudrais savoir écrire. Pour ranger un souvenir ou dénoncer tout ce que j'abandonne. Écrire tout ce que tu fredonnes, écrire ce que la nuit inspire. Avouer nos délires pour le meilleur et pour le pire, tu voudrais tout dire. Vendetta, vendetté, être ou avoir été mise à nu pour écrire. Mais sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Pour te venger, tu as le charme inspiré, une fée en papier, littérature écorchée. Je vais laisser monter. Tu voudrais pouvoir écrire les dernières secousses de ton enfance timide sur un matelas de mousse humide, ainsi soit-elle, éprise de lui sur une île terre. Les prises qui croyaient prendre, ton corps ondule encore, quand les caresses glissent
jusqu'en haut de tes cuisses. Dors maintenant, s'il te plaît, comme un nuage dans les vapeurs de sens. Tu penses que je t'ai quitté, mais c'est toi qui t'es jeté sur une feuille pour écrire trop de mots sophistiqués, comme un roman gothique et des mots démodés. Virginité déboussolé et le cœur endetté, ton pied froid qui bouge sur un lit rouge, exorcisé tous ces mots du dedans, mots de tête, mots de dents, et mélanger nos soupirs, confondre nos plaisirs, par vagues lentes et lascives, comme un roseau dans le parfum de l'eau.
C'était Écrire de Charlélie Couture. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes.
Et voilà, J'irai cracher sur vos ondes touche déjà à sa fin. Comme d'ordinaire, je remercie celles et ceux qui ont prêté leur voix pour nos chroniques de ce soir, à savoir Sandrine et Théo. Merci également à Joséphine et Sophie d'avoir donné de leur temps pour parler avec nous de sorcières, d'édition, d'écriture et de tant d'autres choses encore. Merci à toi qui nous écoutes. Ça ne mange pas de pain de se rappeler que sans toi, tout ce qu'on fait, ça servirait un peu à rien. On te dit rendez-vous la semaine prochaine, de 19h à 20h sur Radio Syllabe. N'oublie pas que tu peux retrouver tous nos podcasts sur le site de syllabe.fr. Et tu peux aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour partager tout à tes potos ou juste suivre nos infos. D'ici qu'on se retrouve, je te souhaite une bonne soirée. Et si tu en as le loisir et l'envie, de bonnes lectures et autres rencontres avec la littérature.